Alors, permettez-moi, messieurs les ministres, Le Foll et Canfin, monsieur le sénateur Joël Labbé, Marie-Monique, de vous remercier pour avoir organisé cette journée importante sur le rôle pionnier que la France peut jouer en matière de promotion et de diffusion de l'agroécologie. En mars 2011, je présentais un rapport au Conseil des droits de l'homme sur l'agroécologie et sa contribution au droit d'alimentation, et ce rapport mettait en avant toute une série de techniques à faible usage d'intrants permettant d'augmenter la productivité agricole à moindre coût, et ceci sans accroître plus encore la dépendance sur les énergies fossiles. Ce rapport a eu un impact important. Il a été traduit par le gouvernement brésilien vers le portugais, diffusé très largement au Brésil par lui dans l'ensemble de l'administration brésilienne. Il a été discuté au sein de l'AFD, l'Agence française pour le développement, au sein de la coopération belge, de la GIZ allemande, de USAID. Et au fond, ce rapport, avec d'autres travaux qui ont convergé dans leurs conclusions, a lancé un débat à l'échelle mondiale. Alors pourquoi cet engouement, pourquoi cette mode, pourquoi cet intérêt renouvelé aujourd'hui pour l'agroécologie? Pas en raison de la résolution du Conseil des droits de l'homme, mais parce que je crois que l'agroécologie répond à toute une série d'impératifs qui sont ceux que le ministre Le Foll a rappelés il y a quelques instants. D'abord, impératif de passer d'une agriculture intensive en intrants, accélérant par conséquent le changement climatique avec le dégagement de gaz à effet de serre, notamment de protoxyde d'azote, accélérant aussi la réduction de la biodiversité, à une agriculture intensive en connaissances qui va utiliser au mieux les interactions écologiques. Deuxièmement, parce que l'agroécologie permet de mieux préserver la santé des sols. Rappelons quand même que, à l'échelle mondiale, 24-25% des sols sont dégradés ou fortement dégradés, et ceci en raison de pratiques agricoles intensives qui ne sont pas soutenables. Troisièmement, parce que l'agroécologie vise à économiser les ressources en eau douce, encourager l'irrigation de précision, l'utilisation des eaux vertes, la collecte de l'eau de pluie, plutôt que de continuer des mécanismes, des schémas d'irrigation en puisant dans les nappes phréatiques ou en détournant le cours des rivières avec des pratiques d'irrigation qui ne sont pas, elles non plus, soutenables. Et quatrièmement, parce que l'agroécologie permet de favoriser des systèmes agricoles fondés sur la diversité, et la diversité, c'est une source de résilience contre le changement climatique. Enfin, dans les pays en développement, l'agroécologie présente un intérêt particulier parce qu'elle permet de rendre la production agricole abordable à moindre coût, ce qui est évidemment important pour les petits paysans qui n'ont qu'un accès difficile au crédit, qui ne peuvent pas investir beaucoup dans la production agricole, pouvoir produire ses propres intrants, jouer au mieux des complémentarité agro-silvopastorale pour économiser le coût de production peut être évidemment tout à fait important. Alors aujourd'hui, je crois que la question n'est plus de savoir si l'agroécologie est une voie d'avenir. Je pense que la réponse est reconnue comme affirmative de manière beaucoup plus large. La réponse fait consensus, et ceci parce que tous les indicateurs sont au rouge et que nous devons changer de cap. Chacun, je crois, le reconnaît. La difficulté, c'est cependant comment organiser la transition. Quels instruments mobiliser? Parmi les différentes conceptions de l'agroécologie, laquelle retenir? Je voudrais dire ici que la France, par la voix du ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll, propose de miser sur l'agroécologie, de la développer et même de devenir pionnier en Europe sur cette question. Je m'en réjouis personnellement. Il y aura naturellement, nous savons tous, des résistances. Il y aura des obstacles. Et toute transition met en cause les habitudes des acteurs et des situations acquises. Le ministre Le Foll, je pense, devra faire de la politique au sens le plus noble du mot. Il devra rencontrer ses résistances, il devra écouter ses acteurs, mais en même temps montrer le cap et préparer le changement aujourd'hui, plutôt que d'avoir à le subir demain sous l'impact des crises énergétiques, climatiques et écologiques. Mais j'entends aussi par ailleurs des craintes, non pas que la transformation proposée aille trop vite ou trop loin, mais qu'elle manque d'ambition ou souffre d'un défaut de cohérence. Plus précisément, que l'agroécologie telle qu'elle serait promue aujourd'hui dans certains États dont la France serait bienvenue mais insuffisamment radicale. Il s'agirait de verdir simplement l'agriculture sans lui faire changer véritablement de cap. Alors, pour ma part, je considère que le débat qui se lance qui est lancée aujourd'hui est une opportunité à saisir. 2013, c'est dans le schéma qui est proposé, le temps de la conception et de l'amplification. Et la France, je crois, dispose, et le ministre Le Foll l'a rappelé, d'atouts considérables qui nous autorisent à imaginer qu'elle peut montrer la voie au sein de l'Union européenne, comme le Brésil l'a fait au sein de l'Amérique latine. Pour cela, il me semble qu'un certain nombre de conditions doivent être réalisées. Je voudrais en énumérer 4 qui me paraissent tout à fait importantes à garder à l'esprit, qui vont largement recouper, monsieur le ministre Le Foll, les quelques engagements que vous avez pris. D'abord, l'agroécologie suppose une co-construction des solutions. Ce que le ministre Le Foll appelait le processus implicatif, en citant sur ce point Michel Griffon. Co-construction des solutions au niveau d'abord de la recherche agronomique, bien entendu, par exemple par la sélection participative telle qu'elle est promue par le réseau Semences Paysannes, mais surtout co-construction au niveau de la définition des politiques publiques qui peuvent soutenir et accompagner la transition agroécologique. La co-construction signifie la participation active des acteurs de terrain, à commencer par les agriculteurs et agricultrices, ceci comme source de légitimité, mais aussi de connaissance, parce que les savoirs traditionnels, les savoirs locaux, les pratiques locales et traditionnelles doivent se combiner au savoir des experts pour produire des pratiques agroécologiques qui sont appropriées au contexte agroécologique spécifique dans lequel ces pratiques vont s'ancrer. La co-construction, ça suppose un État qui n'est pas seulement un grand ordonnateur, mais qui est aussi à l'écoute, qui est modeste, qui est facilitateur et qui accompagne la recherche de solutions locales. Première condition, donc, la co-construction des solutions. Deuxième condition, me semble-t-il, c'est le renforcement des capacités des acteurs collectifs et la mise sur pied de réseaux associant producteurs, consommateurs et pouvoirs publics avec le soutien des experts scientifiques. Avec l'agroécologie, en effet, ce n'est pas seulement la production agricole dont il s'agit. Car après tout, à quoi sert-il de produire mieux si l'on n'a pas de débouchés, si les intermédiaires, les transformateurs, les distributeurs rejettent vos produits ou si les consommateurs ne suivent pas le mouvement. Ce qu'il faut, c'est donc une transition qui concerne toute la filière, ou je dirais plus précisément tout le système agroalimentaire, au-delà de la production, incluant la transformation, la distribution et la consommation. Troisièmement, l'agroécologie vise en fait à réduire la dépendance sur les intrants et à mieux inscrire l'agriculture dans les écosystèmes dont elle dépend et dont elle va entretenir ensuite les capacités en retour. C'est au fond une quête d'autonomie qui caractérise largement l'agroécologie et cette autonomie, elle doit pouvoir s'exprimer aussi sur d'autres plans. Notamment, l'agriculteur, l'agricultrice doivent être mieux protégés contre la volatilité des prix du marché. L'agriculteur, l'agricultrice doivent être mieux protégés contre les abus de pouvoir économique des chaînes agroalimentaires dans une gouvernance des systèmes agroalimentaires qui doit être attentive au déséquilibre entre les rapports de force qui sont noués entre les différents acteurs. Pourquoi faut-il que l'agroécologie s'accompagne de réformes sur ce plan? Eh bien d'abord parce que l'autonomie que ça va permettre pour le producteur est une autonomie qui est source de résilience, résilience à l'évolution chahutée des cours des hydrocarbures ou des matières premières agricoles, résilience aussi par rapport aux pratiques des grands acteurs de l'agroalimentaire qui parfois rendent extrêmement difficile la capacité pour les plus petits agriculteurs simplement de subsister grâce à leur travail. Et deuxièmement, parce que c'est à cette condition de renforcer l'autonomie que l'on préservera le tissu rural de manière dynamique et que pourra émerger une nouvelle génération d'agriculteurs, d'agricultrices, bref, que l'histoire de la paysannerie pourra continuer simplement d'être écrite. Quatrième condition, l'agroécologie, pour émerger véritablement comme une nouvelle manière de cultiver, de consommer, qui soit à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui, suppose une approche plurisectorielle. Par exemple, les règles concernant l'aménagement du territoire doivent favoriser l'accès à la terre d'une nouvelle génération d'agriculteurs. Les régimes qui régissent les écoles, l'éducation doit favoriser la fourniture de cantines scolaires en production produite de manière responsable et qui respecte certaines conditions de durabilité. Les subsides qui vont aux agriculteurs, mais aussi le régime de la fiscalité, doivent encourager les pratiques agroécologiques à quoi va s'attacher le troisième axe incité du projet qui est proposé par le ministre Stéphane Le Foll. Et celui-ci suppose naturellement que le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt travaille avec le ministère des Finances, avec la ministre de l'Écologie, à ce que ces réformes plurisectorielles puissent avoir des chances de réussir. Et la France, je le crois, a des atouts considérables pour réussir ces transitions. D'abord, il y a en France une conception territoriale de l'action publique, ce qui permet de rechercher la cohérence au niveau local ou au niveau régional, comme le promeuvent par exemple les CIVAM, les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, en prêchant par l'exemple. Ces centres ont 10 000 adhérents aujourd'hui et ils veulent territorialiser les solutions qui visent à aller vers des pratiques agricoles plus durables et à revitaliser le tissu rural. Cette conception territoriale de l'action publique, elle permet aussi de favoriser une réelle participation de l'ensemble des acteurs intéressés à la définition des politiques au plan local, et ceci garantit que les décisions seront prises dans l'intérêt général plutôt que dans celui de quelques-uns. Deuxièmement, la France, et ceci le ministre Le Foll vient de le rappeler, est un terrain fertile en expérience. Il y a bien sûr l'agriculture de conservation, l'agriculture sans labour, qui doit s'orienter aujourd'hui vers une agriculture de semis sous couvert sans herbicides. Il y a des pratiques nombreuses de sélection participative associant chercheurs et cultivateurs pour le développement de nouvelles variétés, pour préserver et miser sur le patrimoine phytogénétique local. C'est le cas de plusieurs expériences en Bretagne, c'est ce à quoi va le travail du réseau Semences Paysannes. Il y a en France un grand nombre d'initiatives qui visent à favoriser l'accès au foncier en lien avec des projets d'insertion des agriculteurs dans l'économie locale. C'est par exemple à quoi vise le travail de l'association Terre de Liens qui vise à favoriser l'accès à la terre pour une nouvelle génération d'agriculteurs. Il y a enfin des tentatives de groupes agroalimentaires comme Terrena, un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros, 22 000 agriculteurs qui sont associés, 11 000 salariés, et Terrena veut s'orienter aujourd'hui vers l'agroécologie. C'est un signe que je crois extrêmement important et extrêmement significatif. On a donc des expériences nombreuses, des expériences diverses qui émanent des paysans, des consommateurs, du monde de l'agroalimentaire industriel et qui ressentent tous, chacun à leur niveau, les besoins de cette conversion. Troisième et dernier atout de la France a une forte tradition en matière d'économie sociale et solidaire, avec un ministre délégué chargé de cette question qui est aujourd'hui Benoît Hamon. L'économie sociale et solidaire a des fortes affinités avec l'agroécologie, d'abord parce qu'elle vise la gestion démocratique et participative associant une pluralité d'acteurs avec des sensibilités différentes, ensuite parce qu'elle vise le développement d'un tissu économique au service de la collectivité et non seulement au service d'une maximisation des profits. Troisièmement, parce qu'elle mise sur la mixité des ressources publiques et privées. Et quatrièmement, parce que l'économie sociale et solidaire veut un ancrage territorial dans l'économie locale. Alors malgré ces atouts qui sont réels, qui sont nombreux, la transition sera difficile. Elle exigera de la volonté politique et un pilotage très adroit. De nombreux instruments devront être mobilisés. Je voudrais en mentionner simplement quatre qui me paraissent prioritaires pour opérer ces transitions. Le premier, ce sont des lignes de crédit spécifiques en soutien de l'agriculture paysanne, développant des pratiques agroécologiques. Deuxième, c'est la formation de conseillers techniques du ministère de l'Agriculture, déployés sur le terrain pour favoriser la diffusion des pratiques agroécologiques, alors que très généralement, ces conseillers sont aujourd'hui formés sur base du paradigme dominant davantage classique et reposant sur l'utilisation massive d'intrants chimiques. Troisièmement, il faut, je crois, utiliser l'outil des marchés publics pour créer des débouchés pour les produits agricoles suivant les bonnes pratiques agroécologiques, maximisant les interactions écologiques. Et par exemple, c'est ce qu'a fait le Brésil avec une loi de juin 2009 qui prévoit que 30% des cantines scolaires qui fournissent aujourd'hui une alimentation à 49 millions d'enfants vont être de l'agriculture familiale et agroécologique. C'est un instrument, un levier extrêmement puissant pour récompenser, favoriser l'agriculture familiale, les petites exploitations. Quatrièmement, il faut peut-être s'engager dans la certification de bonnes pratiques agroécologiques, mais ceci de manière participative et en reconnaissant la diversité et l'évolution permanente des pratiques. Je voudrais conclure en trois points. D'abord en disant que la transition agroécologique est nécessaire et la proposition du ministre Stéphane Le Foll doit être vue comme une opportunité à saisir pour s'engager dans ce mouvement. Deuxièmement, la transition agroécologique supposera des réformes et des mesures d'accompagnement de ces réformes qui vont bien au-delà des bureaux du ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. D'abord parce que les collectivités locales doivent s'engager. Le rôle des conseils généraux au plan régional est tout à fait essentiel. Il faut un ancrage de la transition dans les politiques territoriales au niveau local et régional. Parce que aussi des initiatives citoyennes et celles du secteur de l'agroalimentaire doivent être encouragées. L'État, je l'ai dit, doit être aussi un facilitateur et pas seulement un grand ordonnateur. Troisièmement, parce que la transition doit engager plusieurs secteurs, l'éducation, l'emploi, l'écologie, l'économie sociale et solidaire. Il faut donc un effort qui aille au-delà d'un seul ministère et qui soit un effort transsectoriel. Troisièmement, troisième point de conclusion, la France, je l'ai dit, est bien située pour montrer la voie, avec d'autres pays dans l'Union européenne, comme l'Autriche, le Danemark, qui ont aussi des choses intéressantes à montrer dans ce domaine. Je souhaite donc bonne chance à la France et au ministre de l'Agriculture pour réussir, et je dirais même, vous avez le devoir de réussir. Ceci parce que les attentes qui sont placées dans la France sont importantes, parce que la France, pionnière de ces transitions, doit ne pas décevoir ces attentes considérables qui sont placées en elle, et parmi elles, il y a les miennes. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Mesdames et Messieurs.